VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 27 novembre 2015. Eric Manirakiza et Anastasie Toudiech en votre compagnie. Au sommaire ce soir, Anastasie.
Au Burundi, tentative d'assassinat manquée d'un proche du pouvoir et importante saisie d'armes.
Et tournée du pape François en Afrique, aujourd'hui le souverain pontife est en Ouganda.
Tentative d'apaisement dans la crise qui oppose la Turquie, Moscou rétablit les visas pour les Turcs.
Au Burkina, nous ferons le point sur les premières élections post-Blaise Compaoré prévues ce dimanche, Anastasie.
Au Tchad, l'ONU-SIDA tire la sonnette d'alarme. Les adolescents sont les plus exposés au VIH.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Nigeria, un kamikaze s'est fait exploser aujourd'hui au milieu de la foule, tuant des dizaines de fidèles dans le village de Dakasoye. C'était à l'occasion d'une procession de musulmans chiites à 20 km au sud de Kano, dans le nord-est du Nigeria. Selon l'AFP, le mouvement islamique au Nigeria, dirigé par le cheikh Ibrahim Zakzaki, qui organisait la procession, a déclaré qu'il est encore trop tôt pour établir un bilan précis des victimes. Le kamikaze était habillé en noir, comme tout le monde, ont affirmé les témoins. Il faisait partie des jeunes gens enlevés par Boko Haram dans la ville de Moubi, dans l'état de Borno, l'an passé, et emmenés dans la forêt de Sambisa où on leur a imposé un entraînement militaire. Son complice avait été arrêté auparavant.
Et au Burundi, un conseiller proche du président burundais a échappé ce vendredi matin à un attentat, mais l'un de ses gardes du corps a été assassiné. Cet ancien gouverneur de la province de Bujumbura Rural est aussi député. Par ailleurs, 4 personnes ont été tuées hier à Bujumbura et à l'intérieur du pays. La police a fait la plus importante saisie d'armes depuis le début des perquisitions dans un quartier au sud de la capitale. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
De nombreux policiers ont tiré ce vendredi matin sur un véhicule qui se dirigeait vers le centre-ville de Bujumbura en provenance du quartier de Kajaga à l'ouest. Des hommes armés qui étaient dans cette camionnette avec immatriculation temporaire voulaient assassiner un conseiller de Pierre Nkurunziza. Un des policiers de sa garde est mort au cours des échanges de tirs à l'arme automatique, mais les policiers ont suivi les 3 tueurs qui se dirigeaient vers le marché de Kotebu, se trouvant sur le même itinéraire. 2 d'entre eux ont été arrêtés. Après un interrogatoire, la police s'est dirigée vers une maison se trouvant au quartier Kinindo à l'avenue Nwarane. Le commissaire municipal de Missé Niyonguru a affirmé que la police a effectué la plus importante saisie d'armes. 6 roquettes, un mortier 60, 19 kalachnikov et 19 grenades ont été trouvées dans la maison de Kinindo. En plus d'autres armes et de tenues militaires saisies. Signalons que 2 personnes, dont une femme, ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi à Gitega au centre et à Mugamba au sud du pays. 2 autres personnes, dont un policier, avaient été tuées jeudi après-midi dans le quartier contestataire de Jabé. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Soudan du Sud, quelques 16 000 enfants ont été enrôlés de force depuis le début du conflit par les différentes parties en conflit, a dénoncé aujourd'hui le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. La situation des enfants reste grave malgré la signature d'un accord de paix en août, a déclaré un porte-parole de l'UNICEF, Christophe Boulirac, lors d'un point de presse à Genève. Ces enfants peuvent aussi, notamment, pas exclusivement, exercer d'autres fonctions comme porteurs ou messagers et sont envoyés dans des zones et situations extrêmement dangereuse du fait des combats. Les filles sont souvent utilisées à des fins sexuelles et pour des mariages forcés.
Scrutin historique dans le pays des hommes intègres. C'est ce dimanche que les Burkinabés se rendent aux urnes pour élire leurs députés, mais aussi leur nouveau président. 14 candidats sont en lice pour la présidentielle. On parle de quelques 5,5 millions d'électeurs. Précision sur ces statistiques électorales et ces élections post-Blaise Compaoré avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Bagassi Koura.
Ce dimanche, 5,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. 14 candidats sont en liste pour l'élection présidentielle. Les 2 les plus en vue sont Rocco Marc Christian Kabore du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. L'autre candidat, c'est Zéphirin Diabré de l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement, l'ancien chef de file de l'opposition jusqu'à la chute de Blaise Compaoré. 8 regroupements d'indépendants et 81 partis politiques participent aux législatives, ce qui fait un total de 7058 candidat pour 127 sièges au Parlement. Pour la sécurité, les autorités comptent mobiliser jusqu'à 25 000 hommes pour assurer le bon déroulement du scrutin dans les 17 898 bureaux de vote. Plus de 17 160 observateurs, dont 876 internationaux, sont attendus. Plus de 1700 journalistes sont accrédités pour la couverture de ce scrutin.
C'était donc notre correspondant, notre envoyé spécial, qui est aussi correspondant, Bagassi Koura, qui prend cette casquette au correspondant également, Anastasie.
Et il le fait parfaitement bien. À l'issue de sa visite au Kenya, le pape François est arrivé en Ouganda, deuxième étape de sa tournée africaine. Lors de son passage à Nairobi, il a dénoncé ce vendredi l'injustice atroce, je cite, que représentent les bidonvilles des grandes mégalopoles africaines, fruit de la corruption et de l'accaparement des richesses par une infime partie de la population. Écoutons les précisions sur cette visite de Dili Diko.
Dans son discours à la foule, dans une église de l'immense bidonville polluée de Kangemi à Nairobi, le pape François a dénoncé les injustices subies par les personnes vivant l'atroce marginalisation urbaine. Il a également appelé la jeunesse à résister à la corruption, au tribalisme et à la radicalisation. Le souverain pontife a attribué ces inégalités aux minorités qui concentrent le pouvoir, la richesse et gaspillent de façon égoïste. Georges Bergoglio a critiqué le manque d'accès aux infrastructures et aux services de base, ainsi que les nouvelles formes de colonialisme qui, selon le pape des pauvres, font des pays africains les pièces d'un mécanisme et les forcent à adopter des politiques de marginalisation visant à légitimer le modèle de distribution actuel où une minorité se croit le droit de consommer dans une proportion qu'il serait impossible de généraliser. Il a dit aux dizaines de milliers de jeunes qui lui ont réservé un accueil festif au stade de Kasarani de Nairobi qu'ils comprenaient les défis qui s'imposent à eux. La première chose à faire pour empêcher un jeune d'être recruté par des groupes extrémistes est de lui donner de l'éducation et du travail, a déclaré le pape François avant de quitter le Kenya dans l'après-midi pour l'Ouganda. Il est attendu dimanche à Bangui en République centrafricaine.
Dili Diko. Et l'ONU SIDA tire la sonnette d'alarme. Le nombre d'adolescents morts du SIDA a triplé depuis 15 ans. La moitié des jeunes séropositifs âgés de 15 à 19 ans vit en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya, au Mozambique, en Tanzanie et en Inde. Selon ONU SIDA, la plupart de ces enfants ont contracté le VIH quand ils étaient bébés, faute de traitement antirétroviral pour leur mère. C'est le cas de Nani Djelassem, qui est à 17 ans la porte-parole des jeunes vivant avec le VIH-Sida au Tchad.
J'étais infectée à ma naissance. Quelle était ma faute? Je suis ici pour vous dire que je n'ai pas honte de parler du VIH. Mais malheureusement, j'ai perdu ma maman. Heureusement, j'ai eu accès au traitement. Mais beaucoup d'enfants séropositifs n'ont pas eu cette chance que j'ai eue. Et 1 sur 3 sur les 2,6 millions ont accès au traitement. Quand on m'a demandé de parler publiquement mon statut, je me suis demandé pourquoi moi? Est-ce que je n'ai pas le droit d'avoir une vie normale comme les adolescents, les autres adolescents? Puis j'ai pensé à tous les enfants et adolescents et je ne pouvais pas rester les bras croisés. Alors j'ai fait une confection. Je n'ai pas honte parce que je vais faire entendre ma voix pour les milliers d'autres adolescents qui ont un rêve comme moi. Le rêve d'aller à l'école, avoir un métier, se marier et avoir des enfants. D'avoir aussi une vie normale comme les autres.
Nani Djelassem, porte-parole des jeunes vivant avec le VIH au Tchad.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a rétabli l'obligation de visa pour les Turcs, durcissant ses représailles contre la Turquie, qu'elle accuse d'avoir abattu son bombardier Su-24 près de la frontière syrienne. Mais de son côté, Ankara essaie d'apaiser les tensions. Les précisions d'Eddie Sango.
Les Turcs ne pourront plus entrer en Russie sans visa à partir du 1er janvier, a annoncé le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov lors d'une conférence de presse avec son homologue syrien Walid Moualem. La veille, le ministre russe des Affaires étrangères avait appelé tous les Russes se trouvant sur le territoire turc à rentrer en Russie en raison de l'actuelle menace terroriste en Turquie. M. Lavrov explique qu'il ne s'agit pas de vengeance. La menace est réelle, a-t-il dit, accusant Ankara d'avoir dépassé les limites acceptables en abattant mardi, près de la frontière syrienne, un bombardier russe Su-24 qui revenait d'une mission de combat dans le nord-ouest de la Syrie. Pour la Turquie, l'appareil était entré dans son espace aérien et a été averti 10 fois en 5 minutes. La Russie accuse depuis l'incident la Turquie d'avoir partie liée avec l'organisation État islamique et exige des excuses. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a émis ce vendredi les souhaits de rencontrer en face à face son homologue russe Vladimir Poutine au sommet sur le climat qui s'ouvre dimanche à Paris pour parler de l'incident aérien qui a opposé leurs deux pays.
Voilà pour le journal. Vous écoutez LMA sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco, préparée et présentée par John Linden.
Au Cameroun, l'État exige l'audit avant tout nouveau financement de la Camerco, la compagnie aérienne nationale. Le ministre des Transports l'a indiqué lors de son passage devant les députés à l'Assemblée nationale. Selon le site internet camerouninfo.net, défendant le budget alloué à son département ministériel devant les députés, en début de semaine, le ministre des Transports Edgar Allum Bingo a indiqué que l'État n'investira à nouveau sur Camerco qu'après l'audit de la compagnie nationale aérienne. Au Sénégal, la Sénélec va-t-elle couper l'électricité aux hôpitaux? La question fait débat et dans un entretien accordé au quotidien L'Observateur et repris par le site seneweb.com, Mohamedou Mokhtar Cissé, directeur de la Sénélec, admet que les hôpitaux ne sont pas comme tous les autres clients de la Sénélec. Les gens disent qu'on ne peut pas arrêter le fonctionnement des hôpitaux en les privant d'électricité, mais si personne ne paye, c'est Sénélec qui va arrêter de tourner. Et si Sénélec s'arrête, c'est tout le pays qui s'arrêtera. La Sénélec traîne 100 milliards de francs CFA de créances. Et puis, selon l'APA, l'Arabie saoudite décaisse 3,5 milliards de francs CFA pour l'achèvement de la grande mosquée Salam du Plateau, le quartier administratif et des affaires de la capitale économique ivoirienne. Ici, aux États-Unis, c'est Black Friday aujourd'hui, le lendemain de la fête de Thanksgiving, lorsque les magasins offrent d'alléchantes soldes. Selon la Fédération nationale des détaillants américains, près de 136 millions de consommateurs feront leurs emblettes ce long week-end de la Thanksgiving, alors qu'ils étaient environ 134 millions l'année dernière.
Merci John Linden pour la Minute Éco.
Votre page sportive pour l'instant. Bonsoir Tim.
Bonsoir Eric.
Le football africain.
Eh oui, Eric, nous allons parler de la Coupe de la Confédération Orange 2015 qui rendra son verdict ce week-end. L'étoile sportive du Sahel de Sousse accueille dimanche Orlando Pirates de Johannesburg en finale retour de cette compétition. Compte tenu des récents événements en Tunisie, la rencontre, qui devait initialement débuter à 19h30 heure locale, se jouera à partir de 15h. L'étoile, qui a ramené un précieux nul, un but partout de Johannesburg le 21 novembre, attend fermement son adversaire. Un autre argument de poids pour le club tunisien, Eric, il est invaincu sur sa pelouse cette année, toute compétition confondue.
Et puis, Tim, on a un rebondissement dans l'affaire Benzema et c'est la sextape.
Et oui, donc dans cette affaire, la Fédération française de football a décidé de se porter civile. C'est un communiqué de la Fédération qui l'a annoncé aujourd'hui, quelques heures seulement après un entretien accordé au Monde par Mathieu Valbuena, la victime de cette affaire qui met en cause Karim Benzema en l'accusant de l'avoir indirectement incité à payer. Karim Benzema a été mis en examen le 5 novembre pour cette affaire et en se portant partie civile, la Fédération française aura ainsi accès au dossier et pourrait, en fonction de l'évolution du dossier, prendre toutes les mesures adaptées à la situation, précise la Fédération.
Et puis le champion kényan de 3000 mètres, Stipor Ezekiel Kembwa, se réjouit de sa nomination hier à la commission des athlètes de la Fédération internationale d'athlétisme. Tim.
C'est un grand honneur de rejoindre une liste aussi prestigieuse d'athlètes retraités ou encore en activité. Et j'espère pouvoir être utile à ce poste pour défendre les droits des athlètes, a déclaré l'athlète de 33 ans à l'AFP. Voilà.
Voilà pour les sports. Merci Tim. Et...
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech et Eric Manirakiza avec vous. Tout de suite, les dossiers du jour. Première escale de Anastasie, le Burkina Faso, n'est-ce pas?
Au Burkina Faso, effectivement, à quelques heures de la clôture de la campagne du double scrutin présidentiel et législatif, les activistes de la société civile continuent leur travail de mobilisation citoyenne pour inciter les électeurs aux urnes. Les mouvements spécifiques qui ont été en pointe dans l'insurrection populaire d'octobre 2014 veulent s'ériger désormais en sentinelle de la démocratie. À la veille de l'élection, ils attirent l'attention des futurs dirigeants sur leur devoir de mémoire vis-à-vis des martyrs, afin que leur sacrifice ne soit pas vain. La correspondance tout de suite de Issa Napon à Ouagadougou.
Après avoir bravé tous les dangers sous l'ancien régime dirigé par Blaise Compaoré et conduit avec l'aide des autres forces vives de la nation, la résistance populaire face au putsch manqué de septembre dernier, les organisations de la société civile qui ont bataillé ferme pour sauver la démocratie veulent s'assurer que les futurs locataires de Kossiam gardent en tête que plus rien ne sera vraiment comme avant dans leur tentative de tordre le cou à toute constitution. Marcel Tankwano, leader du mouvement du 21 avril M21.
5 ans, une fois, deux fois maximum, quelle qu'en soit ta façon de faire, même si tu es bon comment, tu dois partir. C'est ça aussi un grand homme, c'est de savoir s'arrêter au moment où on ne t'attend pas. Celui qui viendra pour diriger notre pays, qu'il sache que les Burkinabés d'il y a 10 ans, 20 ans, ce n'est plus ces Burkinabés. C'est le nouveau Burkina qui est en marche. Si tu n'as pas compris ça, tu te mets en marge de cela, tu vas prendre la forêt comme Blaise Compaoré. Un mandat, une fois, s'il est bon, deuxième mandat, et puis il s'en va.
Pour ces responsables de mouvement, la société civile dans son ensemble est aujourd'hui une force que plus aucun dirigeant ne pourrait ignorer ou manipuler. Hervé Ouattara, président du CAR, citoyen africain pour la Renaissance.
Les organisations de la société civile constituent véritablement une force, une véritable force de changement, une force qu'il faille canaliser pour non seulement l'ancrage démocratique, pour le bon devenir de nos institutions. Donc je crois que le nouveau président à venir, de discuter avec les différents responsables de la société civile pour voir comment la société civile peut contribuer d'une autre manière à ce que l'ancrage, l'enracinement de la démocratie dans notre pays soit une véritable réalité. Et comment cette société civile peut insuffler un autre dynamisme, enfin d'amener la jeunesse à mieux participer, j'allais dire, dans la construction de cette nation. Parce que c'est une véritable force qui n'est pas à négliger.
Appuyé par l'unité d'action syndicale et des OSC, comme le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples qui faisait déjà un travail de fond, ces mouvements de jeunesse qui ont précipité la chute de Blaise Compaoré et installé un nouvel équilibre de force, la démocratie devrait se conjuguer avec respect de la constitution et bonne gouvernance. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Voilà, c'était Issa Napon et nous restons à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour parler maintenant des élections. Et c'est Zoumana Wanogo qui a interrogé la population ouagalaise. Suivez.
Si les observateurs s'accordent à dire que la campagne électorale au Faso est apaisée, il n'en est pas de même sur la toile. Nathalie Bayala, membre du groupe de jeunes initiateurs de la campagne, mon message, ma vidéo, explique.
Nous voyons des amis, des frères qui ne sont pas du même bord politique, qui ne partagent pas les mêmes idéaux, qui s'échangent des phrases ou des expressions, des messages qui ne sont pas vraiment, vraiment pour un Burkina uni. En griffe, nous sommes les meilleurs, vous avez dîné avec le diable. Qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas le diable? Est-ce qu'on peut dîner avec le diable et ressortir sans les cornes? Des messages où on entend, par exemple, l'autre il vient de telle localité, il est plus proche de telle ou telle personne qui était là avant. C'est pour éviter cela que le concept a été lancé. Mon message, ma vidéo. Objectif paix, objectif Burkina meilleur, objectif Burkina 1.
Comment y participer? Suivons Nathalie Bayala.
Il suffit de faire une vidéo et d'avoir un message incitant les Burkinabés à voter et après le vote, à accepter les résultats des urnes pour que nous allions tous vers une émergence. Surtout insister sur le message et la qualité de la vidéo et balancer sur Internet. On a des liens WhatsApp et des liens Facebook auxquels on envoie.
Lancée il y a quelques jours seulement, la campagne Mon message, ma vidéo connaît déjà un engouement avec des effets correcteurs sur les messages haineux. On écoute Alain Dabilgou, le coordonnateur de la campagne.
Et nous avons eu le premier jour 20 vidéos. Et hier, nous étions à 15 vidéos et les gens adhèrent. J'ai vu par exemple des jeunes burkinabés des États-Unis qui ont parlé par exemple du vote, qui ont dit que le vote, tu peux t'asseoir à la maison chez toi et dire que ta voix ne compte pas, mais ta voix peut permettre à un candidat de gagner. Il y a eu d'autres messages, par exemple, qui parlent de la lutte contre ce côté ethniciste. Il ne faut pas mettre au devant ces affaires d'ethnie, dire que telle personne est de telle ethnie, donc on ne peut pas être président et autres, tout ça. Il y a des gens qui ont dit qu'on est du même pays, on est de la même racine, et pour le bien de ce pays, il faut effacer ce côté ethnique. Il faut aller plutôt pour un Burkina qui gagne. Il y a des messages en moré, en différentes langues nationales, en fulfoudé, tout ça. Nous voulons toucher à travers cette campagne à tout le monde. Nous avons été contactés par le site lefaso.net et par la télé BF1 qui veulent nous aider à aller plus loin que ça.
Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
La transition politique en République centrafricaine est prorogée jusque fin mars 2016. Le calendrier électoral initialement prévu lui reste inchangé. Les explications du coordonnateur de l'Observatoire des élections, Maître Maurice Sérémalé, au micro de Pascaline Magalé.
Nous, au niveau de l'Observatoire national des élections, ou en un mot, nous les membres de la société civile centrafricaine, informés comme les autres acteurs sociaux au niveau de notre pays, nous avons été informés de cette décision de nos pairs de la CAC, une décision que nous saluons à sa juste valeur. Parce que dire que la transition devait finir le 31 décembre, alors qu'à cette date, rien ne serait encore fait. Par exemple, l'élection, d'après le chronogramme de l'Autorité nationale des élections, le référendum c'est pour le 13 décembre et le premier tour le 27. Nous avons salué à sa juste valeur cette décision pour la simple raison que ça va permettre à nos autorités de bien préparer d'abord les échéances, le processus électoral. Donc voilà, nous saluons à sa juste valeur cette décision.
Pensez-vous que cette prorogation permettra aux autorités de transition d'organiser des élections législatives et présidentielles crédibles et transparentes?
À l'allure où vont les choses, si on devait vraiment les organiser maintenant, ça va être en violation avec les dispositions du code électoral. Je peux citer par exemple la carte d'électeur. Pas plus tard le mercredi dernier, les responsables de l'Autorité nationale des élections avaient affirmé que les cartes d'électeur seront imprimées, distribuées sans les photos. Alors que ça, c'est en violation aux dispositions de la loi numéro 13003 du 13 novembre 2013. Portant code électoral de la République centrafricaine. Donc, ça va vraiment les permettre de mieux organiser les choses, de faire en sorte que les cartes d'électeurs, chacun va se retrouver avec sa photo. Ça va vraiment nous éviter les cas de fraude des consorts.
Le coordonnateur de l'Observatoire des élections, Maître Maurice Sémalé, il était au micro de Pascaline Magalé.
Chaque 1er décembre, le monde célèbre la Journée mondiale de lutte contre le sida. L'ONU s'est fixé l'objectif de briser l'épidémie de sida d'ici 2020.
Il est grand temps que le monde se réveille. Vivre avec le VIH, c'est possible, mais vivre sans le sida, c'est encore mieux.
Voudriez-vous en savoir davantage? Rendez-vous ce samedi à 18h30, temps universel, dimanche à 20h30, temps universel, et mardi à 18h, temps universel, dans Carrefour Sciences et Santé, Eric Manilakiza sera en votre compagnie.
La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, vient de publier son rapport annuel sur les pays les moins avancés. Cette année, le rapport met l'accent sur la transformation de l'économie rurale dans les 48 pays les moins avancés que compte la planète, dont 34 sont en Afrique. Rolf Streger est chef de la section des pays les moins avancés à la CNUSED. Il est également le coordonnateur de ce rapport. Au micro de John Lyndon, il parle tout d'abord de ce qui a motivé la rédaction de ce rapport.
La motivation pour la rédaction du rapport sur les pays les moins avancés, c'est que la communauté internationale vient d'adopter les objectifs de développement durable que parle d'éradiquer la pauvreté dans le monde. Or, l'éradiquer, ça veut dire également éradiquer là où c'est le plus difficile. Là où c'est le plus difficile, c'est dans les pays les moins avancés. Et au sein des pays les moins avancés, dans les zones rurales des pays les moins avancés. Donc, sans transformation structurelle des zones rurales des pays les moins avancés, les objectifs de développement durable ne seront pas réalisés.
Vous dites aussi dans ce rapport que les politiques mises en place dans les années 90 par les institutions comme la Banque mondiale n'ont pas réussi. C'était une erreur. Pourquoi ces politiques-là n'ont pas réussi?
Disons qu'une erreur, il est toujours difficile de généraliser, mais un problème, c'est qu'il y a eu le fait du désengagement de l'État assez radical dans l'économie rurale et pour l'achat des produits et pour les subventions et pour les services de vulgarisation et de conseil. Le problème, c'est que les mécanismes de marché n'ont pas remplacé l'État dans ces fonctions-là. Donc, de ce fait-là, en partie de ce fait-là, mais aussi à cause d'autres développements adverses, la productivité de l'agriculture des PMA, elle a progressé très, très peu au cours des 40 dernières années, alors qu'elle a progressé énormément dans les autres pays en développement, c'est-à-dire les pays qui sont en développement, mais qui ne sont pas PMA, et dans les pays développés.
Dans ce cas, vous dites, pour que ça marche en Afrique, il faudrait que l'Afrique s'aligne sur le modèle de développement chinois. Est-ce que les deux continents, ou tout au moins, est-ce que ça, ce qui a marché en Chine peut marcher en Afrique?
On ne peut jamais copier telles quelles les stratégies de développement parce qu'en tout état de cause, il faut toujours adapter aux spécificités locales. Par contre, un élément qui a été très important en Chine, c'est que la transformation structurelle de l'économie chinoise a commencé par augmenter radicalement le niveau de productivité du travail dans l'agriculture, ça c'est un élément important, et ensuite, allié à ça, c'est la diversification des économies rurales.
C'était Rolf Streger, le chef de la section des pays les moins avancés à la CNUSED, et il répondait aux questions de John Linden.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine, vos points de vue dans RM Show. Envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Girl, them a run on me body. They really want some of this gyration. So they talking about me. Who don't know gotta use their imagination. They know that they wanna wind with me. But they're so shy. I don't know why. Baby girl, they got to tease and please my eyes. So I want you just to wind in front of me. Hold your head and grind in front of me. Say you're loving this song, so you're all on the ground. Showing up your ass in front of me. I say we moving up so, tripping and we tripping through the soca tempo. Oh, 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 yeah. Girl, how you twist your waist and go down low. Then it's on your back, it's on your bring it up slow. Yes, yo, you got your glass in the seat, oh. Liking the vibes, I'm with your crew. This is the kind of music that make you feel sane. Cause soca in your heart, soca in your veins. Let it pump, let it pump, let it go through your brain. Girl, wine, girl, drive them insane. How are you in front of me? Hold your head and grind in front of me. Say you're loving this song, say you're on the ground. Showing up your ass in front of me. Oh, 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 oh. I say we're moving up slow. Tripping and we're tripping through the soca tempo. Oh, 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 yeah, yeah. Girl, how are you wine, wine, bubble and roll. Bump strong your bump, I feel it's you. Hands up.
C'est la fin de cette édition, chers auditeurs. La mise en onde était aujourd'hui assurée par Rodney Roberts. La réalisation, Lionel Runanira Kahima. À la présentation, Anastasie Tudiesh et Eric Manirakitsa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Continuons la conversation sur Facebook. Vous pourrez partager vos points de vue, vos photos, commenter des sujets et poser des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM, Raga FM, Kinshasa, Soleil FM, Conakry,
92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.